Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, Margot Agnès. Aujourd'hui c'est Marc Bisset qui est aux manettes de notre émission. Et l'invité, vous l'avez entendu quand on en parlait juste avant les infos avec Christelle Rebière et notre ami Parizeau, c'est Gilbert Thil. Bonjour,
bonjour monsieur le juge. Bonjour Pradel.
Vous êtes un des grands spécialistes français de l'antiterrorisme. Ça fait maintenant près de 20 ans que vous occupez de ces affaires-là, et je rappelais tout à l'heure que vous avez également bien sûr eu un parcours de magistrat comme juge d'instruction, premier juge d'instruction et même substitut, je crois, au cours de votre carrière.
Oui, au parquet général j'ai fait 4 ans. Le reste de ma carrière, ce qui en tient lieu, a été consacré uniquement à l'exercice des fonctions de l'instruction.
Voilà, ça veut dire quand même une vie en immersion dans le domaine du crime organisé.
Crime organisé ou du crime tout court,
du crime
et
tout
dans
court,
tous les domaines, ouais. Et on sait que malheureusement la palette est très large.
Alors vous allez partir en retraite dans quelques mois
Le 30 juin, oui, oui. L'administration judiciaire va me remercier de mes services, dont j'espère qu'ils ont été, sinon bons, du moins loyaux.
Et le livre que vous faites paraître aux éditions Fayard, sous le titre « Mafia », dont on va évidemment parler tout au long de l'émission, c'est un dernier message.
Non, je n'adresse pas des messages, c'est pas
un dernier message professionnel. Hein,
j'entends bien. Ce ne sont pas des dispositions testamentaires que je lègue à la collectivité avant de partir. Oui. Simplement, j'ai été amené à constater dans mon exercice professionnel et celui que j'ai exercé depuis 19 ans, la lutte antiterroriste, que en définitive, et la Corse est un des exemples parmi d'autres, peut se rapprocher aussi de la lutte contre le crime organisé, parce qu'en définitive, les organisations criminelles les plus puissantes, les véritables mafias, imposent également leur vue par l'intimidation ou la terreur, mais il n'y a pas d'idéologie derrière. On est simplement là dans le cadre d'une logique prédatrice et ensuite corruptrice, mais quand on voit les mafias italiennes, comment elles ont assuré leur prééminence et leur autorité sur des territoires, comment elles l'ont défendu, comment elles ont infiltré le tissu économique et social et politique, eh bien finalement, il n'y a pas de grande différence entre une criminalité qui est organisée à des fins idéologiques et une autre qui est organisée sur des bases purement mercantiles.
Ouais, c'est pour ça que vous avez appelé votre livre « Mafia » au pluriel, bien sûr.
Hein. Oui.
C'est aussi au sens général du terme. On dit,
oui,
ah,
c'est
une
pas
mafia,
au ouais. sens universitaire du terme qui a
c'est
défini
pas l'armée
très
du crime,
précisément. Ouais. Mais bon, en Europe occidentale, on recense à l'heure actuelle 3600 organisations de criminalité organisée qui sévissent sur leur propre territoire, mais qui font également de plus en plus des raids sur des territoires étrangers. On le connaît en France avec notamment la vague de cambriolage. Disons que, à côté de la mondialisation économique qui a abouti à la multiplication des échanges, de la mondialisation financière qui a abouti à une dérégulation de la société et à un affadissement des contrôles, eh bien la criminalité organisée s'est enchâssée sur cette mondialisation-là et que malheureusement face à la puissance de l'armée du crime les forces de répression ne sont pas forcément toujours au niveau où on pourrait le souhaiter pour relever les défis oui. Qui nous sont opposés.
La justice, combien de divisions en fait quoi.
Oui.
Mais alors justement... très peu, donc on a l'impression à vous lire parce que on va revenir sur ce symbole que vous avez choisi du Tour de France en collant au Tour de France cycliste. En fait, c'était normal pratiquement d'y penser puisque le dernier Tour de France est parti de Corse. Hein.
Oui, il est parti de Corse. Il y a eu 3 étapes, donc j'ai filé la métaphore cycliste, surtout sachant que la première étape sur le continent, c'était Nice et puis ensuite Marseille.
Marseille. détails. Oui.
Et comme je ne me lasse pas de le répéter, le Tour de France a fini comme tous les ans sur les Champs-Élysées, mais qu'il a contourné pour la première fois de son histoire l'Arc des Triomphes napoléonien, c'est-à-dire que là on était à deux pas du cercle Wagram et du cercle Concorde.
Exactement. Alors, on a quand même l'impression, et c'est un dernier mot comme ça général sur l'organisation de ce livre, on a l'impression vraiment que ceux qui luttent justement contre le crime vident un peu l'océan avec une petite cuillère, quoi. C'est un livre pessimiste.
J'ai essayé de faire un constat qui ne soit pas un constat alarmiste, mais qui regarde les choses en face. Et ça ne date pas d'hier. Regardez les difficultés qu'ont les institutions répressives, qui ne peuvent pas tout régler à l'évidence, à elles seules. Seules les marchands d'illusions vous font croire ça. Ouais. Mais la lutte contre le trafic international de stupéfiants, c'est une lutte de tous les jours, avec plus d'insuccès que de succès, et un certain nombre d'échecs retentissant. La lutte contre le trafic d'êtres humains n'est pas non plus à tout coup couronnée de succès. Il faut simplement savoir si on se range dans le camp des défaitistes ou des munichois, ou si avec les moyens qui sont les nôtres et dont on peut toujours revendiquer dans le climat budgétaire, dans le contexte budgétaire extrêmement contraint, l'amélioration, il faut se battre. C'est une lutte de tous les instants. Le crime est aussi vieux que le monde. Ouais. Eh bien, ça, il faut en prendre son parti. Il faut lutter en permanence contre lui.
Si on doutait de la nécessité de se battre contre cette criminalité, ben justement, votre livre constitue une collection d'exemples qui font parfois froid dans le dos, avec cette porosité entre des milieux d'affaires ou des milieux politiques et cette grande criminalité organisée. Vous dites que, alors je ne sais pas si vous parlez de la France quand vous écrivez ça, vous dites que certains hommes d'affaires sont obligés de passer des pactes avec des organisations criminelles, tout simplement pour pouvoir travailler dans certaines régions.
Signalement dans certaines régions de notre douce France, mais il suffit de regarder l'exemple italien, hein. L'exemple italien où là, il y a la matrice des mafias, la Cosa Nostra sicilienne, la Camorra napolitaine et la 'Ndrangheta calabraise. Quand on contrôle un territoire, que l'on impose son propre impôt, le pizzo en Italie, ou l'impôt révolutionnaire dans d'autres contrées, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, en définitive, on exerce une forme de souveraineté sur ce territoire que l'on défend, que l'on essaye d'étendre, et au niveau des activités et au niveau de la superficie, et finalement, on se comporte comme un État devrait se comporter. C'est-à-dire que si les privilèges régaliens de l'État passent aux mains d'une minorité agissante et criminelle, on peut se poser des questions. Donc, en Italie, on a vu ce que ça donnait. Simplement, en France, on a toujours un peu la tendance à considérer que la mafia, c'était l'Italie, et que c'est l'Italie, et que la corruption, c'est l'Afrique. Malheureusement, cette attitude de déni qui a subsisté pendant des années et des années, et qui n'a pas affecté que la France, on peut regarder le cas de l'Allemagne, la mondialisation, une nouvelle fois, des échanges, de l'économie et financière, c'est accompagné d'une mondialisation du crime organisé, c'est ce qu'on appelle maintenant les organisations criminelles transnationales. Et ça, on n'a pas voulu le voir venir, ou en tout cas, on ne l'a pas vu venir. Maintenant, on est en plein dedans.
Voilà, vous citez d'ailleurs un stratège chinois qui explique comment, en fait, plus on prend dans le germe ce qui est en train de se passer, plus on a de chances de le contrôler, quoi.
Oui, parce que quand la maladie s'est développée, c'est beaucoup plus difficile. Alors, je ne sais pas si c'est complètement exact sur un plan médical, mais enfin, le traité de stratégie chinoise dit effectivement que quand on peut lutter contre un phénomène lorsqu'il est à l'état de germe, on arrive sans mal à vaincre la maladie. Si on attend qu'elle se soit développée au cas d'espèce métastasée, c'est beaucoup plus difficile. Et puis le sage chinois dit, quand on marche sur le givre, la glace dure n'est pas loin. Je pense qu'on est quelque part engivré, bien que le terme ne soit pas encore catalogué dans le dictionnaire.
Alors Gilbert Thil, on va prendre des exemples, on va faire une partie de ce Tour de France ensemble, on va passer évidemment par la Corse, par Paris, mais on va commencer à passer par Marseille. Marseille, on n'a que l'embarras du choix quand on se penche sur l'histoire criminelle de cette ville. On y vient dans un instant.
jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Et l'invité de l'heure du crime, le juge Gilbert Thil, pour ce livre Mafia, qui vient de sortir aux éditions Fayard. Et quand on lit ce livre, eh bien, si on en doutait, on constate qu'effectivement, cette guerre contre le crime organisé, c'est une guerre avec des morts, avec des victimes. Dans le milieu du banditisme, les règlements de compte entre bandes rivales font partie du quotidien, qui font les balances, où les gêneurs sont souvent l'objet de contrats exécutés par des professionnels qui abattent en général en moto leurs victimes. Il est beaucoup, beaucoup plus rare de lancer un contrat sur la tête d'un juge. C'est pourtant ce qui s'était déjà passé à Lyon en juillet 1975 avec l'assassinat du juge Renaud, que tout le monde appelait là-bas le shérif. Et puis, le 21 octobre 1981, à nouveau, le scénario tragique se répète. À Marseille, cette fois, ce jour-là, le juge Pierre Michel est abattu par deux tueurs à moto en pleine ville, sur le boulevard Michelet. Dès 14h, sur l'antenne d'RTL, Robert Cessieux donnait les premières informations sur cet assassinat.
Ce sont deux tueurs, des motards montés sur un gros cube qui ont abattu le juge Pierre Michel. Pierre Michel, premier juge au tribunal de grande instance de Marseille, venait de quitter le palais de justice pour aller déjeuner à son domicile. Il avait emprunté le boulevard Michelet et venait de ralentir pour emprunter la contre-allée lorsque les tueurs se sont portés à sa hauteur. Il y a eu trois coups de feu, deux balles ont atteint le juge dans la tête, une autre l'a touché au thorax. La mort a été instantanée. Alors bien sûr, c'est un travail délicat que va devoir mener maintenant la police. Le juge Michel s'occupait des dossiers les plus brûlants du banditisme. C'est lui qui enquêtait par exemple sur la tuerie du bar du téléphone qui a fait 10 morts à Marseille. Spécialisé dans les affaires de drogue, il a reçu la semaine dernière les magistrats italiens qui enquêtent sur la mafia et leur a délivré, paraît-il, nombre de renseignements. Il était donc en première ligne, on ne l'a pas raté.
Voilà, Gilbert Thil, là on a monté une marche, non, si j'ose dire, cette année-là. C'était...
Oui, effectivement, la criminalité organisée de Marseille a franchi le pas en cette année-là, mais ça s'inscrivait dans un contexte qui était déjà celui, c'est pas la mondialisation qui a tout apporté, elle a accéléré le phénomène, mais le trafic international de stupéfiants, pour la bonne raison que on n'en produit pas en France. C'est vieux, sinon comme Hérode, mais Carbone et Spirito, sur Marseille, s'y livraient déjà. Les frères Guérini, nonobstant un certain nombre de leurs dénégations, s'y sont également probablement livrés. En 1969, en pleine guerre du Vietnam, Richard Nixon force le trait et dit que 80% de la drogue qui commence à inonder les marchés américains provient de Marseille et de la ce qu'on appelait la French Connection, mais que on aurait dû appeler plus précisément la French Corsica Connection, parce que les chimistes français pour et corses notamment pour transformer la morphine base en héroïne et avant l'opium en morphine base sont les meilleurs et les plus réputés. Après, donc c'est une pression sur le gouvernement français, après on s'apercevra lorsque la French Connection sera démantelée au début des années 70 par le juge marseillais Sorel et par le commissaire Morin, le commissaire Morin, on s'apercevra que les Américains avaient un peu forcé le trait parce qu'ils soupçonnaient, pas toujours à tort, la police française et de faire preuve d'inaction. Après, on s'apercevra quand même que l'essentiel de l'héroïne importée aux États-Unis était importée du Triangle d'Or, Birmanie, Laos, et puis je ne sais plus, par les triades chinoises et autres organisations criminelles. La mort du juge Michel marque par contre un palier dans l'absence de retenue par rapport à une mythologie en disant on se respecte entre policiers, on voit ça à travers, entre les policiers, les voyous, les juges, on n'y touche pas. Ça a été un véritable séisme. Mais le juge Michel, ce que je retiens surtout, c'est que après avoir fait son stage chez le juge Sorel à la fin des années 1970, alors que ce magistrat partait à la retraite, eh bien le juge Michel a repris le flambeau, sinon tout seul, du moins il se trouvait fort isolé. Et souvenez-vous de ce qu'on disait, parce qu'il avait des méthodes un peu rudes
contre la criminalité. Oui, on l'appelait le justicier.
Il avait des méthodes peut-être un peu rudes procédurellement à l'égard de ces justiciables qui faisaient partie de ces organisations criminelles. Bah, c'était déjà ce qu'on entend encore aujourd'hui. Bon, le shérif, le justicier, le croisé, et il instruisait, sans doute, comme le font encore un certain nombre de magistrats instructeurs, peut-être, il faut regarder les choses en face, davantage à charge qu'à décharge. J'observe simplement que son dossier à lui a été instruit à décharge par le milieu, mais à décharge de plomb. Donc, il faudra peut-être regarder un peu les choses en face. Il y a des gens, et le juge Michel en est une figure éminente, qui ont risqué leur vie, qui se sont battus pour lutter contre le crime organisé, alors que d'une manière générale, les politiques considéraient ça d'un œil plutôt distant.
Dans le cas de l'assassinat du juge Michel, c'est une vengeance ou c'est un signal ?
Ça n'a pas été un véritable signal, ça a été une tentative. Bon, elle a été réprimée très vigoureusement grâce au travail exceptionnel de la police judiciaire. On a fini par identifier 5-6 ans après les auteurs qui étaient des personnes impliquées dans des trafics internationaux de stupéfiants. Les auteurs ont été arrêtés. Par contre, la riposte policière et judiciaire a été particulièrement virulente, ce qui fait que le milieu traditionnel, on va dire les choses comme ça, a été très très perturbé dans ses activités de trafic des êtres humains, de prostitution, petit trafic de drogue, ce qui fait qu'il a considéré que c'était peut-être pas un bon plan que de s'en prendre aux magistrats, parce qu'après, leur relative quiétude était par trop perturbée par la réaction de l'appareil d'État.
Ce danger de mort, vous l'avez intégré comment dans votre propre parcours professionnel ?
On n'y pense pas, je pense que le juge Michel n'y a pas pensé spécialement, sauf les derniers mois de son existence où des signaux lui ont été passés, et en définitive je crois qu'il a senti venir la concrétisation du péril. Après, si vous faites ce métier-là, c'est un peu comme les fonctionnaires de police, on prend un certain nombre de précautions en se disant toujours bon, qu'on n'est pas complètement concerné.
On va faire une pause dans l'émission et après on va faire un détour, et un long détour par la Corse. C'est d'ailleurs par la Corse que vous ouvrez ce livre, avec la référence au Tour de France. Questions, réactions, témoignages, 3210, le standard téléphonique d'RTL, ou RTL.fr si vous préférez les courriels. À tout de suite.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et nous retrouvons Gilbert Thil pour son livre « Mafia » paru chez Fayard. On va faire l'étape corse de ce tour de France du crime organisé. Là, il y avait du pain sur la planche. Avant de voir avec vous ce que la peinture que vous faites, très particulière, hein, de ce territoire où on a à la fois un certain nombre de bandes reconnues, de crimes organisés, on a aussi ce que vous appelez la dérive mafieuse des mouvements nationalistes. On en reparle dans un instant, mais d'abord un document RTL, c'est du 6 février 1998, on est en début de soirée, le préfet Claude Erignac est abattu à Ajaccio. Et dans le journal de 19h, le même soir, sur RTL, Jean-Claude Lanfranchi donne les premiers éléments sur cet assassinat qui constitue aussi une première dans l'histoire de la Corse.
Claude Erignac se rendait au théâtre municipal. Il était tout seul et il était à pied. Il a été froidement abattu dans la rue sans que l'on sache à l'heure actuelle les circonstances. Toutefois, il semble que les tueurs aient agi en voiture et qu'ils étaient au moins trois. Un important dispositif policier interdit l'approche des lieux, y compris aux journalistes. Difficile pour quand d'avoir accès à l'information, d'autant que les policiers sont à cran autour du corps du plus haut représentant de l'État dans l'île. Claude Erignac était un homme de dialogue. En Corse, depuis 2 ans, il avait suivi de très nombreux dossiers concernant notamment la mise en place de la zone franche et la dette des agriculteurs. Il avait aussi géré de nombreux conflits sociaux, mais rien ne laissait présager que quiconque attente à sa vie, même si l'État est souvent la cible privilégiée des mouvements nationalistes qui jusqu'à présent ne se sont jamais attaqués à une personne.
Voilà, c'était donc Jean-Claude Lanfranchi sur l'antenne d'RTL dans le journal de 22h. Alors, la Corse donc occupe pas mal de beaucoup de place hein, en fait dans ce livre, Gilbertine.
Oui, je travaille sur la Corse dans le cadre de mes fonctions de juge antiterroriste depuis 16-17 ans. Et c'est l'essentiel de mon activité compte tenu de la spécialisation qui existe au sein du pôle antiterroriste. Bien sûr, j'ai fait de l'islamisme radical comme tout le monde. Il a pu m'arriver de faire extrêmement rarement une ou deux affaires de base que j'ai eu en charge la lutte contre l'armée révolutionnaire bretonne. Mais pour l'essentiel, ça a été la Corse.
Et donc, vous êtes devenu par la force des choses un des meilleurs connaisseurs de ces des coulisses qui sont extrêmement complexes avec ces bandes dont vous rappelez l'existence et la naissance, la brise de mer, le petit bar et d'autres.
C'est effectivement très compliqué. On est dans une région de France où il y a en quelque sorte deux périls majeurs. Le nationalisme radical qui cherche à imposer ses vues par l'intimidation ou la terreur, contrairement à ce qui a été dit à la fin du reportage consacré à l'assassinat du préfet Claude Erignac. C'était pas la première fois que la mouvance nationaliste radicale s'en prenait à un représentant de l'État et tuait des hommes, puisque dans la deuxième partie de la décennie 70 et encore au cours de la décennie 1980, il y a des gendarmes qui ont été abattus et délibérément abattus par le FLNC. Et puis à côté de cela, il y a effectivement des bandes de criminalité organisée. Vous avez cité la brise de mer, il y avait ce qu'on appelait la sphère de Jean-Jay Colonna par un présumé de la Corse du Sud, qui se livrait à leurs activités traditionnelles, le racket, les braquages de fourgons, de transfert de fonds, et toute une grande partie de la panoplie des organisations criminelles.
Mais qui ont longtemps laissé la Corse en dehors de leurs activités criminelles.
Ça a d'abord été un terrain de repli, et puis après, ça a commencé d'ailleurs par le réinvestissement de l'argent du crime dans l'économie légale. Et c'est comme ça qu'on crée des zones grises, et c'est comme ça qu'on se crée également des affidés. Il y a un ouvrage remarquable, c'est celui de Jacques de Saint-Victor, qui décrit bien, qui s'appelle Un pouvoir invisible. Cet universitaire a bien décrit comment le blanchiment d'argent, d'où qu'il vienne, finit par gangréner et l'économie légale et toute la société. L'État, en Corse, a été incapable de lutter contre les deux phénomènes à la fois, et il a privilégié la lutte ô combien nécessaire contre le terrorisme, mais il a laissé, malgré les signaux d'alarme qui avaient été déclenchés dès le début des années 1980, notamment par le commissaire Broussard, qui était préfet de police en Corse, il a laissé flotter les rubans. Et maintenant, on revient à votre stratège chinois du début du livre.
Mais ces morts, qu'est-ce qu'elles signifient? Parce qu'il y a la mort du préfet Erignac, vous l'avez rappelé, il y a eu des morts de représentants de l'État,
des
gendarmes, des symboles. Il y a l'avocat Solacaro qui, lui, a été assassiné dans une station-service sur la route des Sanguinaires en 2012.
Il y a 2 ans, ça fera 2 ans. Oui, qu'ont expliqué les membres du commando, pour ceux qui se sont expliqués, c'était pas le cas de tous, et ceux qui ont reconnu leur implication dans l'assassinat du préfet. Ils ont expliqué que, bien sûr, ils luttaient contre l'État colonial, ils ont expliqué qu'ils ne voulaient pas viser l'homme, mais le symbole, mais pour toucher le symbole, il faut tuer un homme, ça paraît quand même assez simple, mais ça ne paraît pas toujours avoir traversé leur raisonnement ou ce qui en tient lieu. Mais il disait aussi que, puisque l'État colonial, forcément, et jacobin, évidemment, et responsable de tout, ils accusaient en creux l'État français de ne pas avoir su lutter contre la dérive affairiste de la mouvance nationaliste. Parce qu'effectivement, lorsque vous vivez dans la clandestinité, il faut des armes, et puis que vous avez de l'argent qui provient de l'impôt révolutionnaire, c'est-à-dire, appelons un chat, du racket, eh bien, vous avez un peu la même tentation que dans la classe politique en général, quand vous touchez de l'argent non identifié pour financer vos activités politiques, l'homme étant ce qu'il est, il y a une forte tentation de s'en mettre une petite pincée de côté, d'abord pour aller boire un coup avec les copains, et puis après la part augmente, et puis la part consacrée au financement politique devient résiduelle par rapport à l'enrichissement personnel. C'est ce qui est arrivé aussi au sein de la mouvance nationaliste, où un certain nombre de ses leaders n'ont pas été complètement insensibles au charme du foncier, de l'immobilier, et ont peu à peu évolué vers l'affairisme le plus sordide.
Et alors, par exemple, l'affaire, je pense à l'affaire du cercle Wagram, c'est parce qu'il faut des lessiveuses après pour blanchir l'argent.
Il faut toujours des lessiveuses.
Là, on n'est plus encore le Paris.
Le système bancaire mondialisé, lui aussi, est toujours aussi opaque, offre des tas de possibilités, mais il y a d'autres moyens de blanchir l'argent en obtenant des marchés publics, pas toujours de façon très très claire, en investissant dans les entreprises qui font dans les travaux publics. Et puis alors la cerise sur le gâteau, effectivement, il y a les casinos, il y a les cercles de jeu, dont à l'occasion des procédures qui ont concerné le cercle Concorde et le cercle Wagram, ont démontré là que s'y côtoyaient un certain nombre de membres éminents d'organisations criminelles corses, des fonctionnaires de police de haut niveau qui, bien évidemment, venaient toujours chercher là des renseignements, et quelques autres membres d'un milieu un petit peu interlope.
Mais alors là, bon, on n'a pas la tentation de baisser les bras, on n'y arrivera pas. Enfin,
mais non, parce que d'abord la justice qui résout tout du jour au lendemain. D'abord, ce serait ennuyeux. Alors, Dieu sait là si on n'est pas en proie à l'ennui. C'est la lutte qui est de plus en plus difficile avec des moyens législatifs qui
alors,
sont pas toujours adaptés.
C'est là-dessus que je voulais vous interroger. C'est-à-dire, est-ce que la législation, donc l'outil principal, l'arme principale de la police et de la justice est à la hauteur de la situation?
Je dirais que cet outil n'a jamais été dimensionné, et il l'est moins que jamais. Alors il faut éviter aussi, parce qu'il y a d'autres considérations, de la manière de laquelle on organise une société, il ne faut pas que ça devienne un état totalitaire ou simplement un état policier. Mais compte tenu là, de l'ampleur de la menace, il est à craindre que nos outils législatifs ne soient pas tout à fait adaptés. On constate d'ailleurs par rapport à la situation italienne qui était beaucoup plus prégnante, qu'on a adopté des dispositions législatives un peu analogues à celles de nos homologues transalpins, avec 25 ans de retard. Et qu'après, une fois qu'on les a adoptés, il faut 10 ans pour les mettre en œuvre.
Alors comment ça marche en Italie justement? Parce que vous faites le Tour de France, mais ça passe aussi par l'Italie. De toute façon, le Tour de France, lui, passe aussi assez souvent par des pays limitrophes.
Il passe même en Angleterre.
Et même en Angleterre, c'est dire.
On va se retrouver dans la City.
On va se retrouver dans un petit instant avec Gilbert Thiel, et on va parler d'un personnage aussi emblématique, évidemment, quand on prononce le mot mafia. Il s'agit d'un certain Toto Riina.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Ah, on est avec la mafia, avec un M majuscule, toujours avec le juge Gilbert Thiel. Deux noms qui sont connus de tout le monde, Bernardo Provenzano, vous en parlez dans votre livre, on y revient dans un instant, et puis Toto Riina. Alors Toto Riina, considéré comme le parrain des parrains, en tout cas dans les années 90, est arrêté le 15 janvier 1993. Il est lourdement suspecté, si j'ose dire, d'avoir commandité l'assassinat du juge Falcone. Et il est arrêté ce jour-là, le 15 janvier 93, à Palerme. Et à cette occasion, document RTL, Jérôme Faure dresse son portrait dans RTL Midi, une édition présentée par Jean-Jacques Bourdin.
Totorina, c'est véritablement l'ennemi public numéro un. Il était recherché depuis plus de 20 ans en Italie. Une recherche d'ailleurs difficile puisqu'on n'avait même pas de portrait de lui. Et on était venu à faire des portraits robots pour imaginer la tête qu'il pouvait avoir aujourd'hui à l'âge de 62 ans. Une fuite étrange par ailleurs puisqu'il est probable qu'il n'a jamais quitté la Sicile. Son avocat d'ailleurs l'avait confirmé l'été dernier en disant que Totorina était toujours au cœur de Palerme dans ces quartiers qui sont tenus continuellement par la mafia.
Et les repentis l'accusent d'avoir perpétré les assassinats de Falcone et Borsellino.
Alors, on a beaucoup reparlé effectivement de Totorina au lendemain de la mort de Falcone en mai dernier et de celle de Borsellino en juillet. Il est, comme ennemi numéro un, il était en fait le parrain des parrains, le chef de la coupole, et à ce titre, il est sans doute celui qui a commandité les meurtres de Falcone et Borsellino. Son arrestation pour cela est très importante et on pense enfin tenir l'homme qui, depuis plusieurs années, depuis 1980, est à l'origine de tous ces meurtres, dont le général Della Chiesa, Falcone, Borsellino, et un certain nombre d'autres, comme le député démocrate chrétien Lima.
Dire que Rina a été jugée et condamnée pour un peu plus de 100 meurtres, n'est-ce pas?
Il en revendiquait d'ailleurs, oui, 80 qu'il avait perpétrés de ses propres mains. C'était peut-être pour entretenir sa légende, mais enfin, oui, il a tué de ses propres mains un certain nombre de personnes. Mmh. Et je pense que les assassinats, le projet d'assassinat qu'il a validé lorsqu'il était le patron, le parrain de Cosa Nostra, à partir de la fin des années 60, je pense, c'est plusieurs centaines de morts.
Ouais. Avec le fameux Bernardo Provenzano.
Oui, c'est-à-dire que il est né à Corleone, Salvatore Rina, et en 1930, et dès l'immédiate après-guerre, il s'entiche du patron de Cosa Nostra pour Corleone, qui est le docteur Navarra. Le docteur Navarra, pour mettre un peu à mal la romance des parrains et
des
autres
films. Oui.
Docteur Navarra, il voulait devenir directeur de l'hôpital local. Le poste était pris, donc il fait abattre celui qui l'occupait et prend donc la tête de l'hôpital local. Il se trouve que là, un gamin de 6 ou 7 ans assiste fortuitement à cet assassinat. Le gamin se sent pas bien. Le docteur Navarra le prend sous sa coupe, le fait hospitaliser et le fait exécuter. Ce docteur Navarra, il se présente à la députation en Sicile. Il est élu, mais pour être sûr que les électeurs votent bien pour lui, il délivre des certificats de cécité. Mmh. Et les faux aveugles sont accompagnés par qui ? Par Salvatore Rina
dans l'isoloir.
On n'est jamais trop sûr. Et il y a un troisième homme qui prendra la succession de Navarra dès le moment où il fera assassiner celui-ci. C'était un de ses amis. Oui. C'est Ligio. Oui. Ligio sera arrêté par la suite. Et enfin, Toto Rina peut prendre la tête de Cosa Nostra. Oui. C'était un psychopathe, un malade mental. Quand je dis c'était, il est toujours vivant.
Il est toujours vivant, il est toujours incarcéré.
Donc, d'abord, dans les années 1980, il va déclarer la guerre aux Palermitains, aux membres de Cosa Nostra de Palerme. Ouais. Ça va être une guerre absolument sanglante, avec son lot de tortures, d'exécutions. Ouais. Dans les années 80, à la liste des magistrats et autres représentants de l'État qui ont été cités, il fait assassiner le député du Parti communiste italien, Pio La Torre, qui dépose, qui essaye de faire adopter une loi anti-mafia que fait le Parlement italien. Il tergiverse, et quand Pio La Torre est exécuté par la mafia, que fait le Parlement italien ? Rien. Il faudra l'assassinat du général Dalla Chiesa, nommé préfet de Palerme, 100 jours après son installation, pour que la loi qui porte le délit d'association mafieuse, c'est-à-dire qui spécifie et le simple fait d'être membre de la mafia est incriminé, et la saisie des affaires, des avoirs criminels, des biens mafieux.
Vous souhaitez que des lois comparables soient votées en France.
Écoutez, pour la saisie des affaires criminelles, on en a une depuis 2010. Mmh. Là, les Italiens, c'était 1982. De la même façon, la loi sur les repentis. Aucun système ne garantit tout et ils sont tous d'un maniement très très délicat. Mais la loi sur les repentis qui a été adoptée au tout début des années 90 à l'initiative de Giovanni Falcone, on a connu ça avec la loi Perben 2 en 2004, mais la commission qui devait se pencher sur les sur le cas des repentis et vérifier la validité de l'octroi à ces gens-là, ça devait être un décret en Conseil d'État, il vient d'être soumis en 2010 en 2013 par monsieur Manuel Valls au Conseil d'État, c'est-à-dire qu'il suffit pas de prendre des lois, d'arrêter des dispositions législatives s'il n'y a pas de logistique et surtout s'il n'y a pas de volonté politique pour lutter contre le phénomène, eh bien, on est très très mal. Alors, dernier mot pour Totorina, après la guerre contre les palermitains où les Corléonais vont prendre le contrôle de l'organisation mafieuse, eh bien, en 1992, c'est l'attaque frontale contre l'État italien. Donc, on tue des magistrats, ça, c'est pas une nouveauté. Mmh. Et on déclenche des attentats en 92, en 93. Là, le parallèle avec le terrorisme est saisissant, notamment celui qui a fait plusieurs morts et qui a été perpétré contre la Galerie des Offices à Florence en 1993. Et finalement, c'est en 1993 que Totorina sera arrêté et le journal Repubblica, et c'est peut-être à méditer, a titré ce jour-là « Cet assassin analphabète et féroce fut l'interlocuteur secret d'une classe politique indécente ».
Sans commentaire, simplement une pause dans l'émission, un peu de musique, et on se retrouve ensuite. Et ensuite, on va parler justement de nos cousins venus d'ailleurs, des États-Unis, mais aussi de la nomenclatura, comme vous l'appelez, des mafias de l'Est.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
C'est la dernière partie de cette émission à l'occasion de la publication chez Fayard du dernier livre de Gilbert Thiel, Mafia, en toile de fond évidemment, et vous l'avez dit dès le début de cette émission, Gilbert Thiel, on a cette mondialisation du crime et qui n'est pas qu'une idée, il y a aussi des émanations de ces mafias étrangères qui agissent en France, vous l'avez rappelé tout à l'heure avec les vagues, c'est pas toujours des crimes de sang, hein, mais les vagues de cambriolage, notamment, commandité de l'Est de l'Europe.
Dans une logique de prédation, vous avez des organisations qui sont spécialisées dans le vol de matériel agricole, enfin d'engins agricoles, qui coûtent très très cher.
Par exemple, oui, de moteurs de bateaux.
Sur les porte-chars et on les envoie dans un pays d'Europe centrale où elles sont débarrassées de leurs balises de géolocalisation. Ouais. Et après, les engins sont exportés vers des pays soit au Maghreb, soit dans les pays de l'Est, soit dans les pays du Golfe. Il y en a d'autres qui sont spécialisés dans le vol des moteurs de bateaux.
Voilà,
on a toute la façade atlantique et tout le
toute la Côte d'Azur,
toute la
aussi,
Côte d'Azur qui peut satisfaire les besoins de leur marché. Et vous en avez d'autres qui sont spécialisés dans les piratages informatiques. Enfin, il y a une véritable mondialisation du crime. Alors, mais comme vous le suggérez, ça ne date pas d'hier. La mafia américaine s'est appuyée sur les vagues d'immigration italienne.
Alors voilà, dont vous parlez dans le livre, sous la dénomination de nos cousins d'Amérique, évidemment. D'ailleurs, moi j'ai fait une découverte dont j'aurais bien que vous puissiez en dire un mot. C'est sur le fait que on peut être mafieux aux États-Unis, mais on fait ses choix politiques aussi. Il y a les mafieux républicains et les mafieux démocrates.
Oui, parce que vous croyez que les criminels organisés en Europe occidentale et ici n'ont pas leurs préférences politiques. Je pense qu'elles doivent être aussi diverses que variées que dans le reste de la population. Mais bon,
oui, mais enfin, on va au-delà de la préférence. Oui, là, c'est parce que ça sert à quelque chose quand même.
C'est la puissance de feu financière de l'argent noir. Et tout le monde sait que John Fitzgerald Kennedy a partagé un certain nombre de ses maîtresses avec des des mafieux de renom et que d'autres présidents républicains, cette fois-ci, ont également eu le même comportement. Et d'ailleurs, le père de John Fitzgerald Kennedy, était, nonobstant ses origines irlandaises, était soupçonné d'être très inféodé, pour ne pas dire membre de la mafia elle-même.
Ça remontait à la période de la prohibition.
Les campagnes électorales, vous le savez, Jacques Pradel, outre-Atlantique comme ici, ça coûte très très cher et il faut les financer.
Oui, mais alors, est-ce que la situation est aussi préoccupante chez nous, pour revenir à votre Tour de France ?
Je pense qu'il faut y prendre garde. Loin de moi l'idée de jeter une suspicion généralisée sur la classe politique, surtout dans son ensemble. Mais il faut toujours tirer les leçons de ce qui se passe ailleurs. On a très brièvement évoqué la situation italienne avec la démocratie chrétienne qui était inféodée à la mafia. On a très bien vu dans l'immédiate après-guerre et pendant toute la durée de la guerre froide comment ces gouvernements italiens se sont appuyés sur la mafia avec la bénédiction des Américains. On sait aussi qu'aux États-Unis d'Amérique, les plus grandes villes, les maires des plus grandes villes ont souvent été phagocytés par des mafieux.
Et vous dites qu'il y a des légendes aussi, hein, par exemple, sur le fait que Lucky Luciano ait vraiment aidé pour au débarquement.
Oui, pour le débarquement, parce que la plupart des amis de Lucky Luciano étaient inféodés au fascisme. Par contre, c'est vrai qu'il avait offert aux Américains le gardiennage grâce au syndicat des dockers du port de New York suite à l'incendie d'un navire, dont il est probable qu'il ait d'ailleurs été incendié par les mafieux eux-mêmes. C'est vrai qu'après le débarquement en Sicile en 1943, les troupes alliées se sont appuyées sur les mafieux pour remplacer les structures administratives des gens corrompus avec le fascisme. Mais ça, il faut pas aller trop loin dans le fantasme et voir que Monsieur Lucky Luciano, compte tenu de son relationnel, on aurait confié les plans, les heures et les dates et les lieux du débarquement sicilien. Là, je crois que ça va trop loin.
Pendant qu'on est en Amérique du Nord, il y a aussi des découvertes à faire en lisant votre livre sur le Canada.
Oui,
sur
la ville de Montréal. Le Canada est aussi, moins que les États-Unis, mais une terre d'immigration italienne à compter de la fin du 19e siècle et bien sûr au 20e siècle et pendant presque tout le 19e siècle. Et bien, il y a des familles qui se sont implantées, mais bon, les familles ne rompent pas leurs racines ni leurs liens avec ceux qui viennent du sud de l'Italie. Et on a eu ces dernières années un certain nombre d'affaires de corruption et d'emprise mafieuse qui dernièrement ont impliqué le maire de Montréal et de quelques autres grandes villes canadiennes. Puis il faut pas oublier que dans les années 1950, lorsque les États-Unis, malgré le déni qui était le leur à travers John Edgar Hoover qui était complètement dans
FBI,
sa stratégie dans sa stratégie McCarthy artiste et de lutte contre l'ennemi mortel communiste et sa traque, eh bien il y a eu quand même quelques commissions d'enquête parlementaire aux États-Unis qui ont conduit un certain nombre de mafieux nord-américains à se replier prudemment vers les pays encore plus neufs tels que le Canada. Voilà. Et ceux-là sont restés implantés. Et on s'est aperçu que les circuits de trafic de produits stupéfiants, notamment, passaient aussi maintenant par le Canada. Et que la corruption des marchés publics dans certaines grandes villes canadiennes n'a peut-être rien à envier à ce qu'elle est ailleurs.
On pourrait continuer longtemps. C'est cet état des lieux auquel je faisais référence au début, qui n'est pas forcément enthousiasmant. Ça montre en tout cas la somme de travail qui attend vos confrères. Vous allez quitter cette activité dans quelques mois, mais on voit maintenant quels sont les enjeux grâce à ce livre. Je vous remercie beaucoup, Gilbert Thiel, d'avoir fait escale, une petite étape à RTL au 22 rue Bayard, où tout va bien du côté des mafias, vous voyez. Vous êtes en terrain neutre ici. Mafia, ça vient de paraître aux éditions Fayard, et j'ai signé Gilbert Thiel qui était mon invité.
Merci.